Il était présenté comme l'un des hommes de l'ombre d'Emmanuel Macron, discret stratège et pilier de son ascension à la fonction suprême. Le conseiller spécial du président de la République, Ismaël Emelian, a annoncé sa démission de l'Élysée lundi dernier. Il attribue son départ à la publication d'un ouvrage sur le progressisme, mais l'opposition pointe du doigt son soutien présumé à Alexandre Benalla. Après la démission début janvier de Sylvain Faure, conseiller en communication du président, le départ d'Ismaël Emelian pourrait signer une profonde réorganisation de l'Élysée. Il marque également un renouvellement de la garde rapprochée d'Emmanuel Macron, fragilisée par l'affaire Benalla et la crise des Gilets jaunes. Qui Emmanuel Macron a-t-il désormais le plus intérêt à écouter pour sauver son quinquennat? Et la mécanique élyséenne souffre-t-elle d'opacité? Pour nous éclairer sur la machine de l'Élysée, nous accueillons le journaliste Alain Duhamel. Bonjour, merci d'être là Alain Duhamel. Vous avez notamment publié « Journal d'un observateur » aux éditions de l'Observatoire. Ce départ est-il un symptôme et que recouvre-t-il selon vous?
C'est un symptôme assez significatif, même puisque Ismaël Emelian était peut-être, avec Alexis Scolaire, le secrétaire général de l'Élysée, le plus proche d'Emmanuel Macron. Il a été associé à sa trajectoire politique depuis le début. On le présentait comme le stratège. En tout cas, il avait un rôle considérable. C'est incontestable, qui en plus était entouré d'une petite aura de mystère, puisqu'il ne voyait pas les journalistes. Donc, il y avait tous les toutes les conditions étaient réunies pour qu'il apparaisse comme un personnage clé. Bon, son départ, il y a sans doute une dimension personnelle, parce qu'il faut bien comprendre que la vie de cabinet en général, et de cabinet élyséen en particulier, c'est un enfer. On dort 6 heures par nuit, et c'est vrai qu'au bout de 2 ans, en général, on commence à être assez épuisé. Moi, j'ai toujours connu des remplacements de ce genre au bout de 2 ans. Mais il n'y a pas que ça. Il y a évidemment l'affaire Benalla, puisqu'Ismaël Emelian est suspecté d'avoir voulu l'aider, en tout cas en lui fournissant l'illustration de ce que ceux qu'il avait attaqué eux-mêmes avaient lancé auparavant des projectiles. Bon, bref, il y a certainement ça. Et puis, je dirais que on est arrivé à un moment où les effets positifs d'une nouvelle génération de débutants en politique, ce qui était quand même le cas très largement à l'Élysée, y compris s'agissant du président de la République, ont produit des effets négatifs. Alors, je suis pas en train de vous dire qu'il faut des plus de 80 ans à l'Élysée, mais c'est un fait que c'était des novices et que ça a joué d'abord dans la gestion catastrophique de l'affaire Benalla, qui du coup a ça a pris des proportions sans comparaison avec l'importance du sujet. Mais parce que ça a été mal géré tout le temps, parce que
qu'est-ce qu'ils auraient dû faire,
c'était vous me direz que c'est facile de le lire après, mais c'était de le renvoyer tout de suite sans attendre et définitivement, évidemment, c'était possible. Hein, rien ne s'y opposait. Mais ils ont très mal géré, ils ont très mal mesuré les effets sur l'opinion, ils ont très mal mesuré le fait que c'était en train de, non seulement de décrédibiliser, mais de désacraliser la présidence de la République. Bon, ensuite, il y a eu les Gilets jaunes. Sur les Gilets jaunes, il faut reconnaître que personne n'avait prévu les Gilets jaunes. Mais le rôle de l'Élysée, c'est d'être réactif dans ces cas-là. C'est à eux qui ont à gérer le problème quand il se pose. Donc c'est à eux de trouver des réponses. Et ça a été très lent à arriver. Donc, visiblement, et dans une affaire qui, au fond, est une affaire absurde, celle de Benalla. Mais absurde, mais dangereuse. Et dangereuse et négative. Et dans
elle
une
est absurde,
affaire...
mais elle s'étire. C'est-à-dire que...
Ah, mais bien sûr. Mais c'est toujours pareil. Quand on traite mal une affaire depuis le départ, ensuite, elle refuse de s'esquiver. Bien entendu. Et, alors, dans l'affaire qui est infiniment plus importante et d'une nature complètement différente des Gilets jaunes, dans les deux cas, le fonctionnement de l'Élysée a été défectueux. Donc, qui est maintenant toute une série de remplacements, qui est une, si j'ose dire, une deuxième vague de collaborateurs, je dirais que ça me paraît normal.
Il servait à quoi, Ismaël Emelian, d'après ce que vous avez pu comprendre, Alain Duhamel? Quel était son rôle? Et du coup, s'il part, comme il l'a annoncé, est-ce que cela va créer un vide qu'il va falloir remplacer?
Alors, ça va créer un vide. Son rôle, c'était au fond d'être l'homme qui avait des idées, l'homme qui avait des intuitions. Il n'était pas chargé d'un dossier particulier. Vous avez un conseiller pour l'agriculture, un conseiller pour le commerce extérieur, etc. Lui, c'était l'homme des idées. Il y a toujours un collaborateur comme ça auprès du président de la République. En général, c'est quelqu'un d'atypique. d'indépendant, de pas dans les moules. Celle-là, ça correspondait bien. Effectivement, il avait eu incontestablement, au moment d'inventer la République en marche et de mettre sur pied la campagne, il avait eu beaucoup d'idées. Quand Emmanuel Macron s'est installé à l'Élysée, a commencé toute une série de réformes, Ismaël Emilien y était évidemment pour quelque chose. Alors je ne suis pas en train de vous dire qu'il était le cerveau d'Emmanuel Macron, mais il était un collaborateur très précieux. Et voilà, il n'y a pas l'équivalent. Il aura un remplaçant, mais pas un équivalent.
Le départ de Sylvain Faure, dont on a parlé tout à l'heure, donc il était préalablement plume d'Emmanuel Macron, il a été également en charge des questions mémorielles, puis il a pris en charge la communication, là aussi, est-ce que c'est une absence qui va peser Alain Duhamel ?
Alors Sylvain Faure, moi je trouve que ce qu'il faisait vraiment remarquablement, c'était les textes des grands discours. Dans les textes des grands discours, il y a la volonté d'Emmanuel Macron, qui d'ailleurs y remettait la main. Hein. Mais je n'ai pratiquement pas le souvenir, alors Henri Guénaud, s'il écoute France Culture, va mettre anglais, mais je n'ai pas le souvenir d'un conseiller du président de la République doté d'une plume comparable, d'une culture comparable, et capable de donner à la hauteur des grands discours. Je ne vous parle pas des discours le soir, etc. Mais les grands discours, franchement, l'équivalent, j'en ai pas le souvenir.
Ça veut dire que les discours d'Emmanuel Macron étaient supérieurs aux discours qu'on a pu entendre chez Mitterrand, parce qu'il y a Orsena qui va peut-être être content après.
Non, mais bien sûr, et puis à un moment même, pour prendre un très grand styliste, à un moment même, au départ, Régis Debray. Hein, ça n'a pas duré, mais enfin, ça a existé.
Oula, on va se faire disputer, parce que lui, écoute France Culture.
En plus, j'ai beaucoup d'admiration pour son style. Si vous voulez, Sylvain Faure donnait à la stratégie présidentielle quelque chose qui, en France, Dieu merci, continue à être important, c'est-à-dire une dimension littéraire et historique authentique, pas fabriquée. Hein, il prenait pas des manuels pour trouver des citations. Et ça, c'est extraordinaire. Franchement, je crois que je connais, en tout cas depuis Georges Pompidou, tous les collaborateurs des présidents chargés de ce genre de choses, je pense que c'est lui qui écrivait le mieux et avec le plus de hauteur. Donc c'est lui qui manquera le plus, évidemment.
Je ne vais pas vous demander des pronostics ni des indiscrétions, Alain Duhamel, mais d'autres départs sont-ils à prévoir ?
Oui, forcément, parce que là maintenant, il va y avoir, alors là, parmi les... Vous savez, l'état-major est nombreux. Donc, il y a beaucoup de conseillers qui ont ce qu'on appelle un portefeuille, donc chargé... du commerce extérieur, par exemple. Bon, je dis ça au hasard, hein, mais ceux-là, en général, au bout de 2 ans, on leur donne un poste exécutif quelque part. En général, avec une promotion pour les remercier d'avoir sacrifié 2 ans, de s'être séparés de leur femme ou de leur ami, et d'avoir eu des nuits blanches qui les font vieillir de 10 ans en 2 ans.
Mais dites-moi, Alain Duhamel, comme il y a eu l'affaire Benalla, dont d'ailleurs l'Élysée n'est pas sortie, les gilets jaunes qui ne sont pas un mince dossier, peut-on être certain que cette équipe qui jadis était présentée comme une équipe incroyable, constituée de Nobel en sciences politiques, est-on certain que ces gens-là étaient aussi compétents, aussi à leur place, qu'on l'a entendu dire.
Je pense que l'équipe de l'Élysée, au départ, était composée de gens brillants, profondément atypiques par rapport à leurs prédécesseurs, complètement novices, et que le noviciat, à partir du moment où il s'agissait d'une présidence tellement différente des autres, avait ses avantages initiaux, mais que le noviciat face ensuite à l'opacité, à la difficulté des décisions à prendre, aux contradictions de l'opinion, le noviciat est décalé et je dirais même assez impuissant.
Noviciat, ça veut dire pas d'ancrage local,
pas d'expérience. Je veux dire, on prenait des cagneux et on les mettait au Collège de France. Bon, certains dans leur vie y arriveront sans doute. Mais enfin, on peut pas en faire une méthode.
Il y avait des précédents de noviciat à l'Élysée, parce que lorsque François Mitterrand est arrivé au pouvoir, vous évoquiez Régis Debray, et on a également d'autres noms qui vont de Jacques Attali à Jean-Louis Bianco, Alain Duhamel. Ces gens-là n'étaient pas au pouvoir auparavant, ils étaient pour la plupart très jeunes. Régis Debray avait un parcours atypique. Bref, est-ce que par exemple, cette comparaison, elle vaut, qu'est-ce qu'il y a comme point commun, qu'est-ce qu'il y a comme distinction?
Alors, s'il s'agit de dire quelles équipes présidentielles ont constitué une vraie rupture par rapport à leur devancière, il y a trois exemples, sous la Ve République, celle du général de Gaulle. Alors lui, il avait une équipe qui, évidemment, n'avait rien à voir avec celle de ses prédécesseurs. Il y a eu François Mitterrand et il y a Emmanuel Macron. Ce ne sont pas les mêmes types d'équipes. Avec le général, c'est une organisation, c'est assez amusant d'ailleurs, sur un modèle militaire. C'était l'organisation comme un état-major militaire.
Et alors, qui étaient ces hommes? Parce que alors, Michel Debré était présenté comme un grand...
Ah oui, mais non, mais les hommes, c'était très souvent des compagnons de la traversée du désert, ou bien des très hauts fonctionnaires qui, en fait, étaient gaullistes. Bon, François Mitterrand, c'était une autre génération politique. C'était des origines politiques complètement différentes. Il y avait effectivement beaucoup de débutants, mais je dirais que par différence avec Emmanuel Macron, c'était des débutants qui étaient dans le combat politique plutôt depuis 10 ans que depuis 6 mois. Autrement dit, ils avaient une forme d'expérience. Des gens comme Attali, ou comme Laurent Fabius, comme Pierre Bérégovoy, etc.
Des personnages bigarrés comme François de Grossouvre, que oui, les jeunes...
Oui, enfin, c'est pas le meilleur exemple.
Non, hein, mais il était à l'Élysée.
Oui, enfin,
il
oui.
Il est même
oui.
mort, le pauvre, d'ailleurs.
Oui, mais il y avait des gens de qualité.
Juste pour rappeler, Alain Duhamel, à nos jeunes auditeurs qui étaient François de Grossouvre, il était a priori là pour les chasses présidentielles, mais il avait un rôle opaque.
Lui avait confié les chasses présidentielles et qu'il avait cherché à conquérir les services secrets. Et que ça s'est très mal terminé.
Mais, il s'est suicidé à l'Élysée.
Oui. François Mitterrand avait effectivement une équipe qui était une équipe nouvelle, mais qui était une équipe nouvelle vis-à-vis du pouvoir, qui découvrait le pouvoir, mais qui connaissait la politique. Alors que cette fois-ci, c'est une équipe qui découvre le pouvoir et qui ne connaît pas la politique. Et ne pas connaître la politique, ça veut dire ne pas avoir des réflexes politiques qui ne peuvent s'acquérir qu'avec de l'expérience et de l'intérêt, comme... À chaque fois qu'on prend une décision, on essaye d'évaluer l'impact. À chaque fois qu'on prend une décision technique, on essaye d'évaluer l'impact politique qu'elle va avoir. Ou bien quand on décide d'annoncer quelque chose, on commence, on a un peu de sens du calendrier, et on commence par annoncer ce qui est agréable d'abord, par exemple une baisse d'impôts, puis ce qui est désagréable ensuite, c'est-à-dire une hausse des taxes. On ne fait pas l'inverse. Parce que si on fait l'inverse, les gens se rappellent les taxes et ne se rappellent pas les baisses.
Oui, mais alors, dans les commentaires qui sont faits pour ce type de bévue, Alain Duhamel, on dit, on entend dire, alors parfois on accuse tel ou tel conseiller, le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, et de temps en temps on considère que le président, alors là en l'occurrence il s'agit d'Emmanuel Macron, est un homme qui n'écoute personne, sont les deux thèses qu'on entend toujours, quels que soient les présidents d'ailleurs. Où est la vérité?
Alors, d'abord, l'idée de dire l'Élysée, ce sont des technocrates, des oligarques, etc. Moi, j'ai toujours entendu dire ça, c'est un peu réflexe conditionné. Ce qui est vrai, c'est que comme en France, la présidence de la République joue un rôle démesuré dans la décision politique, bah évidemment, on fantasme beaucoup autour de, à propos de ses conseillers. Je dirais que... Intellectuellement, ceux que je connais, bon j'en connais quand même un certain nombre, intellectuellement, ceux que je connais sont vraiment de bon niveau et sont, alors c'était une bonne chose, foncièrement originaux par rapport au recrutement habituel. Ça c'est intéressant, parce qu'on voyait bien quand même que la vie politique, que la décision politique et que l'Élysée en particulier avaient besoin de renouvellement. Bon, ils apportaient ça. Ils apportaient ça, mais au fond, ils n'ont pas su métamorphoser leur personnage. Je compte très bien fait, je pense à quelqu'un comme Pierre Bérégovoy, puisqu'il a été secrétaire général de l'Élysée de François Mitterrand.
Qui avait un trajet lui aussi
c'était,
particulier.
Voilà, très particulier. C'était un autodidacte qui avait franchi tous les échelons de la société, très bien. Pierre Bérégovoy avait une expérience politique, n'avait pas d'expérience du pouvoir, mais a très vite acquis les réflexes. Très vite. Bon, là, visiblement, ils ne les ont pas acquis. C'est-à-dire qu'on avait des hommes de pouvoir qui n'avaient pas de sens politique.
Pas assez de cadres, je veux dire de cadres. Il y avait par exemple Jérôme Monod près de Jacques Chirac. Il y avait un certain nombre de personnels à l'Élysée auparavant qui étaient en quelque sorte une référence, parfois aussi une forme de séniorité. Est-ce que c'est ça qui a fait défaut à Emmanuel Macron, qui lui fait toujours défaut d'ailleurs?
C'est un des éléments, mais il faut, je veux dire, aujourd'hui, évidemment, comme il y a les départs, comme il y a au fond une autre vague qui va arriver à l'Élysée, donc la pente, c'est de ne voir que les défauts de ceux qui s'en vont. Alors, ils ont les défauts, on vient d'en parler, je pense, sinon de façon complète, en tout cas de façon directe. Ils avaient aussi des qualités, une fonction. Leur fonction, c'était d'essayer de renouveler, de changer, et des qualités, c'était des gens qui étaient au départ désintéressés, par principe, puisqu'ils avaient été associés à une expérience totalement aventureuse et même improbable, hein, qui était la conquête du pouvoir par Emmanuel Macron. Donc, ils étaient originaux. Ils étaient originaux, mais ils n'ont pas réussi leur métamorphose, c'est-à-dire qu'au fond, c'était des post-adolescents très doués qui ne sont pas devenus totalement des adultes, en tout cas en politique.
Est-ce que ça signe, malgré tout, vous qui êtes un fin observateur, d'ailleurs vous publiez le journal d'un observateur, Alain Duhamel, de la République et des différents présidents qui se sont succédés sous la Ve, est-ce que pour vous cela signe un échec d'Emmanuel Macron, puisque même si vous avez dit qu'il y a un renouvellement naturel des cabinets, est-ce que ça n'est pas trop tôt, trop important ?
C'est toujours difficile quand on renouvelle beaucoup de collaborateurs en même temps. Par principe, c'est difficile. Et c'est donc risqué. Je pense que c'est nécessaire. Je pense que ce quinquennat doit inaugurer une seconde phase. Donc, il faut aussi des têtes différentes pour y arriver. Le tout, c'est de savoir maintenant si les nouvelles têtes seront meilleures. Ça, pour l'instant, on ne peut pas encore le dire. Et on ne le saura qu'à l'expérience.
Bon, on va continuer à vous écouter avec plaisir, Alain Duhamel. Dans une vingtaine de minutes, vous serez rejoint par Gaspard Ganzer, qui a été ancien conseiller en communication de François Hollande. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Journal d'un observateur » aux éditions de l'Observatoire. Il est 8h sur France Culture. On va continuer à évoquer les excuses, les erreurs de communication des présidents, puisque... Et nous avons parlé du départ d'Ismaël Émélien, qui est conseiller spécial d'Emmanuel Macron, également du départ de Sylvain Faure, qui lui était en charge de la communication du président. On a déjà commencé à en parler en compagnie du journaliste Alain Duhamel, et il est désormais rejoint par Gaspard Ganzer. Bonjour, vous êtes ancien Bonjour. Conseiller en communication de François Hollande. Avant de s'excuser, il faut avoir des raisons de s'excuser, Alain Duhamel, et quand on prend l'histoire des dérapages des présidents de la République, alors je ne sais pas, par exemple, de Gaulle, il y avait le peuple sûr de lui et dominateur lorsqu'il évoquait les Juifs. Raymond Aron avait alors dit à quel point cette expression lui paraissait fautive. François Mitterrand, on avait pu lui reprocher le seuil de tolérance. Mais c'était assez rare, des dérapages présidentiels, à moins que ma mémoire me fasse des tours.
Chez les présidents, sous la Ve République, pendant la première phase, disons jusqu'à François Mitterrand inclus, c'était effectivement assez rare. Sous la Quatrième République, chez les présidents du Conseil, c'était permanent. Sans arrêt, le Parlement devenait un lieu de polémique passionnée à cause des dérapages supposés. Mais en France, il y a deux particularités. La première, c'est que il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire, même si elles sont vraies.
Par exemple.
Et très souvent, quand Emmanuel Macron disait dans le colonialisme, il y a eu des éléments de civilisation. Oui. Simplement, c'était pas l'essentiel. L'essentiel, c'était évidemment l'oppression, la dépossession, la tyrannie, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi des médecins qui n'étaient pas là avant, un peu de scolarisation, des routes qui se créaient. Je veux dire, on n'a pas le droit de le dire. Mais parler de seuil de tolérance. Bon, seuil de tolérance, c'est totalement quelque chose de subjectif, d'indémontrable, etc. Mais quand les Français soupçonnent que ce qui est dit est à la fois désagréable à entendre et vrai, alors là, ça devient pour eux insupportable. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il y a un certain nombre des formules qu'il a utilisées qui étaient désagréables, donc inaudibles, donc choquantes, donc maladroites, qui n'étaient pas forcément fausses.
En tout cas, elle pouvait...
Je ne généralise
ou
pas.
Non. Elle pouvait, certaines... On va poser la question à Gaspard Ganzer, mais... Peu importe à la limite qu'elles aient été considérées comme vraies ou fausses sur le moment, elles étaient aussi considérées comme étant peu présidentielles.
ce qui est peu présidentiel, c'est qu'en France, bon, autour du chef de l'État, évidemment, on hystérise tout, ce qui est normal, hein, c'est dans la logique des institutions, mais on n'a pas conscience du fait qu'en France, il y a beaucoup d'interdits en matière de langage qui, dans d'autres pays, évidemment aux États-Unis, c'est l'extrême, mais qui, dans d'autres pays, par exemple en Grande-Bretagne ou en Allemagne, sont acceptés et qui, en France, ne sont pas. En France, il y a des tabous de langage.
Les écarts de langage de François Hollande, Gaspard Ganzer.
Il y en a eu, bien évidemment, des gaffes et de langage, mais aussi des images qui ont pu surprendre ou choquer. Hein. On se souvient malheureusement des images de François Hollande dans la presse People ou de moments de communication moins bien maîtrisés.
Ça, c'était involontaire.
Oui, bien sûr.
Mais, par exemple,
oui, enfin,
un certain nombre de formules issues.
Sans avoir trop de rentrer trop dans le langage psychanalytique, parce que c'est justement ce que j'allais dire en écoutant Alain Duhamel, c'est que les Français ont un rapport psychanalytique avec leur président de la République. On est dans le registre de l'acte manqué, c'est peut-être le scooter de François Hollande, du tabou de l'écart de langage, du lapsus, ça arrive souvent. François Hollande, il a souvent, en matière de regret, il a souvent tourné autour de l'idée du regret sur la question de la déchéance de nationalité. Parce qu'il avait fait cette proposition d'extension de la déchéance de nationalité après les attentats de novembre 2015. Dans un premier temps, ça avait été plutôt bien compris et accueilli par l'opinion publique. Puis après, son propre camp, ses conseillers, ses ministres lui avaient reproché. Lui-même n'était pas très à l'aise avec cette idée. Mais c'est vrai que je ne sais pas si c'était par orgueil ou peut-être peur, finalement, d'apparaître comme pas assez ferme. Il n'avait pas exprimé de véritable regret. Et même dans son livre Les leçons du pouvoir, il ne dit pas « j'ai fait une erreur, je n'aurais pas dû le faire, je le regrette totalement ». Les hommes politiques en France ont beaucoup de mal à aller au bout de cette démarche.
Frédéric Saïs.
Est-ce que selon vous, d'ailleurs, Gaspard Ganzer, ça manque au président Hollande? On voit qu'au Parti Socialiste, il y a eu cet inventaire qui a été initié par Olivier Faure et que l'ancien président François Hollande l'a assez mal pris, il l'a dit à Sciences Po il y a quelques jours.
Oui, mais le problème de François Hollande et de tous les présidents de la République, c'est qu'ils ont le sentiment qu'ils n'ont pas été jugés à leur juste valeur et que leur action n'a pas été jugée à leur juste valeur. Mais comme je le dis souvent, la politique, c'est pas juste. On fait pas la politique pour être aimé. Si on a envie, un premier ministre britannique disait souvent, si on a envie d'être aimé, faites pas de la politique, achetez-vous un chien. Et ben c'est la même chose. François Hollande,
Il a un chien.
Il a un chien maintenant, mais ça ne suffit pas visiblement, il s'appelle Filet.
Ils ont tous des chiens.
Certains plus tardivement que d'autres.
Un président a un chien.
Et un labrador en général.
Mais c'est pour compenser.
Probablement.
Général de Gaulle avait un chat.
Il avait un chien aussi, je crois.
Le général de Gaulle était hors norme.
Donc pour terminer sur cette idée, je pense que, moi j'ai d'ailleurs eu l'occasion de lui dire, je pense que quelque part, l'homme politique, quand il va au bout lui-même de son mea culpa, finalement, il désamorce les critiques des autres. Quand on est le premier à dire « j'ai fait cette bêtise », bah, les autres sont privés du carburant qui permet de les critiquer.
Alors moi, j'ai le souvenir d'un président qui s'est excusé, mais qui s'est excusé de telle façon qu'il s'est renforcé. C'est François Mitterrand, lorsqu'il a été obligé de revenir en arrière sur l'école libre. À l'école privée. Je me rappelle encore la scène, il était dans la bibliothèque de l'Élysée, c'était à la télévision, et il a dit, écoutez, j'avais cette idée, les Français ne le veulent pas, j'ai eu tort, et puis il a continué en disant, mais je pense pas qu'au fond de moi-même, je ne change pas d'avis, vous comprenez? Et il a su dire ça, avec une espèce d'autorité naturelle telle qu'à la fin, on se disait, bon, on n'est pas d'accord avec lui, mais quand même, c'est quelqu'un.
Et alors, Emmanuel Macron, parce que on évoquait donc les conseillers qui l'entourent, il s'est excusé. Alors, vous allez nous dire, Alain Duhamel, si selon vous, il s'est assez excusé, bien excusé, puisque pendant le début de la gronde des Gilets jaunes, on attendait de lui des excuses. Certains, en tout cas, les attendaient. Est-ce qu'il les a formulées de la manière adéquate, assez tôt, assez tard? Qu'en pensez-vous?
De toute façon, sur les Gilets jaunes, il y a eu un retard à l'allumage manifeste. Je veux dire, il y a eu un temps de réaction qui a été excessif, je dirais au moins 3 semaines, ce qui est l'éternité en politique, surtout quand on est dans une crise. Il a admis plusieurs des phrases qu'il avait prononcées, il l'a dit, que plusieurs des phrases avaient pu choquer, blesser, et qu'il le regrettait. Moi, ma thèse, c'est que elles ont, pour un certain nombre d'entre elles, d'autant plus blessées que les Français qui les entendaient savaient qu'elles étaient vraies et qu'on n'accepte pas qu'on vous dise quelque chose de désagréable quand c'est vrai, alors que si c'est faux, on dit « ah ben ça c'est injuste » et puis on passe à autre chose.
Gaspard Ganzer, vous êtes là pour vous mouiller. Est-ce qu'Ismaël Émélien et Sylvain Faure, ou peu importe d'ailleurs, les conseillers de l'Élysée, ont mal conseillé Emmanuel Macron durant la crise des Gilets jaunes? Est-ce que, je ne sais pas, moi, avec vous à l'Élysée, ça ne serait pas arrivé?
Non, ça certainement pas. Moi, j'ai fait une collection d'erreurs qui ne me permettent pas de donner de leçons. Ce que j'ai appris à l'Élysée, c'est que les conseillers sont là pour aiguiller la décision, conseiller des actions, mais qu'il n'y a qu'un seul patron, c'est le président de la République. Moi, de temps en temps, je donnais des conseils à François Hollande qu'il suivait. Parfois, il avait raison de le faire, parfois non. Et parfois, il ne les suivait pas. Il me suivait mon avis, ça restera entre nous, parce que ça fait partie de, on va dire, de l'intimité, de la loyauté.
Vous auriez pu vous décharger de la secrète pesant sur votre conscience.
Non, ça va, je suis très tranquille avec ma conscience. J'ai eu l'occasion de faire un livre pour le raconter. Et en revanche, je pense que dans le rôle du conseiller, c'est évidemment d'apporter la contradiction et de toujours dire la vérité. Ce que je ne sais pas, parce que je ne suis pas dans l'intimité de l'Élysée à l'heure actuelle, c'est est-ce que ce langage de vérité est toujours tenu? Parce que la courtisanerie existe, hein, elle a toujours existé dans les palais de la République, notamment à l'Élysée, parce qu'on a un rapport un peu pathologique à notre président de la République qu'on prend pour un roi, et c'est pas toujours facile pour un président de dire la vérité. Moi, je suis pour le coup tranquille avec ma conscience parce que j'ai toujours dit ce que je pensais.
Frédéric Saïs.
On voit en ce moment l'extrême difficulté d'Emmanuel Macron à recruter un patron pour sa communication. Il a rencontré beaucoup de monde. Il a même fait un entretien avec Franck Louvrier, qui est l'ancien patron de la communication de Nicolas Sarkozy. Il a fait un entretien. Franck Louvrier qui a refusé et de nombreux postulants potentiels ont eux aussi refusé. Gaspard Ganzer, vous qui avez occupé ce poste, à quoi ça tient selon vous? Est-ce que c'est lié à la personne d'Emmanuel Macron ou est-ce que c'est lié à l'époque? Finalement, c'est un job, un métier tellement impossible que personne ne veut s'en charger.
Je vais vous raconter une anecdote. Quand on m'a proposé en avril 2014 de rejoindre l'Élysée, c'est Philippe Grandjean d'ailleurs, qui est maintenant aujourd'hui à l'Élysée, qui m'a proposé.
Qui est Philippe Grandjean?
Philippe Grandjean, donc, c'est un ancien patron, enfin, directeur de la communication d'une boîte du CAC 40, qui a conseillé longtemps François Hollande de Nicole Nota à la CFDT, longtemps conseillé de façon officieuse François Hollande, et qui aujourd'hui est arrivé à l'Élysée après avoir participé à la fondation de la République En Marche et même l'avoir dirigé par intérim il y a quelques mois. Donc, on me propose de rencontrer François Hollande pour prendre le job. Je demande à 5 de mes meilleurs amis et de mes plus proches, est-ce que je dois y aller? Les 5 personnes m'ont répondu, surtout n'y va pas. Premièrement, la mission est impossible, le président est à 18% dans les sondages, il vient de se faire prendre une déculottée au municipal, il va en prendre une autre aux européennes, il n'écoute pas ce qu'on lui dit, et puis surtout, ta vie va devenir un enfer. Je n'ai pas écouté leur avis. Et j'ai pu vérifier que c'était non pas un enfer, parce que personne ne m'a... L'enfer ressemble à mon avis à quelque chose de bien différent de cela. En revanche, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 200 SMS par jour, autant d'appels. On sacrifie totalement sa vie personnelle, mais on le fait parce qu'on le fait pour son pays.
Alain Duhamel, votre point de vue à ce sujet, on voit qu'il est difficile, nous dit Frédéric Saïs, de recruter... Pour Emmanuel Macron aujourd'hui, il y a d'autres précédents en matière de communication, mais bien souvent, le président arrivait avec ses conseillers dans ses bagages. Recruter en cours de mandat, c'est quelque chose de plus compliqué à faire.
Oui, c'est plus compliqué. En plus, le moment où il le fait, ça a été vrai pour François Hollande auparavant, mais le moment où il le fait est un moment où il est en grande difficulté. Donc, il faut un certain stoïcisme pour le rejoindre à ce moment-là. Et tout le monde a pu constater que le fonctionnement de la communication de l'Élysée pendant les 20 premiers mois était au moins, pour employer une litote, insatisfaisant. Donc, celui ou celle qui va arriver saura, un, que la période est particulièrement difficile, deux, que Emmanuel Macron est quelqu'un qui s'exprime d'abord lui-même, et de façon souvent spontanée, non organisée. Et trois, que l'organisation même de la communication à l'Élysée, jusqu'à présent, était, pour être poli, une joyeuse pagaille. Donc, c'est évidemment pas extraordinairement séduisant.
Une joyeuse pagaille, mais bien souvent, et Gaspard Ganzer n'en prendront pas ombrage, mais bien souvent, ceux qui sont en charge de la communication des présidents sont de drôles de zèbres. Je pense par exemple au personnage de Pilan auprès de François Mitterrand, des gens qui ont des parcours un peu atypiques, qui sont des gens un peu hors normes, qui n'en font qu'à leur tête. Est-ce que ça, par exemple, c'est un profil qui ressemble au portrait robot des conseillers en communication des présidents?
Non, Pilan, c'était tout à fait une exception. D'ailleurs, son rôle, ça n'était pas de diriger la communication, c'était d'être une sorte de stratège de la communication présidentielle, mais pas de gestionnaire quotidien de cette expression publique. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui s'occupait de la communication quotidienne, puis il y avait quelqu'un de très intelligent, d'ailleurs, moi je l'ai assez bien connu, très intelligent, cultivé, qui prenait du recul.
Qu'est-ce qu'il faisait Jacques Pilon auprès de François Mitterrand?
Il était le stratège de la communication. Il a, par exemple, François Mitterrand aimait assez s'exprimer. Il savait qu'il était très éloquent, qu'il parlait facilement, etc. Bon, Pilon a fini par le convaincre que son intérêt était de parler beaucoup moins qu'il ne le faisait. C'était pas la pente naturelle de François Mitterrand, c'était pas si facile de l'en convaincre, mais il y est parvenu. De même, il a imaginé des types d'émissions ou des types d'interlocuteurs dans des émissions différents. Et c'était presque un théoricien de la communication. Alors que là, c'est pas du tout ça. Là, c'est un gestionnaire de la communication qu'il faut. Et bon courage.
À 8h34 sur France Culture, on continue à évoquer l'entourage présidentiel d'Emmanuel Macron avec le départ d'Ismaël Émélien et de Sylvain Faure. L'un était conseiller spécial, l'autre conseiller en communication du président de la République. Nous sommes en compagnie du journaliste Alain Duhamel et de Gaspard Ganzer, qui est ancien conseiller en communication de François Hollande. Gaspard Ganzer, l'Élysée, ça fonctionne comment et qu'est-ce qui est le quotidien de cette maison et à quoi ça sert?
Bonne, vaste question. Les collaborateurs de l'Élysée, ils sont une cinquantaine, une quarantaine, dirigés par un secrétaire général qui est aujourd'hui Alexis Kohler. Ils sont là pour aider le président à prendre ses décisions et à les mettre en œuvre au quotidien, notamment dans le domaine militaire et diplomatique, qui sont comme le cœur de l'action à l'Élysée, et puis aussi dans le domaine économique et social. Il y a un certain nombre de conseillers qui sont transversaux, comme le conseiller en communication, et tous les matins, il est là, le conseiller en communication, pour mettre en image, mettre en musique l'action présidentielle. La grande difficulté, c'est que tous les matins, on arrive avec un plan, une stratégie, en se disant voilà quels vont être les grands moments de communication. Et tous les jours, on est obligé de déchirer ce plan parce qu'il y a une crise grave parfois, un attentat terroriste, un accident, une catastrophe naturelle, ou parfois une petite crisette politique liée aux vicissitudes. On écoute les matinales le matin, il y a tel ministre, tel opposant politique qui a une phrase qui dérape, un petit mot à côté, un opposant politique, et il faut réagir à cela. Donc ce qui est très difficile, c'est qu'il faut à la fois courir un marathon, qui est celui de la construction d'une stratégie sur le long terme, donc c'est ce que faisait Jacques Pilon, et en même temps, être capable au quotidien de courir des sprints extrêmement courts pour gérer les crises. Moi, tous les matins, j'arrivais avec un état d'esprit de stratège, mais je terminais en étant vraiment un artisan, si ce n'est ou un ouvrier de la communication présidentielle, qui devait écoper en permanence les trous qui étaient mis dans la COP, parfois par les amis du président.
Mais alors, des organisations élyséennes, on en a de différents types, Alain Duhamel, et il y a des Élysées qui sont censées tout gouverner en France, on peut penser par exemple à Nicolas Sarkozy, d'autres au contraire où il est question d'être extrêmement en retrait, Jacques Chirac était réputé l'être. Comment ça fonctionne et comment situer le dispositif d'Emmanuel Macron par rapport à cela?
Jacques Chirac en fait en matière de communication a été l'exception sous la Ve République parmi les présidents, parce qu'il est le seul qui, par tempérament, mais aussi par stratégie politique, je ne dis pas par stratégie de communication, je dis par stratégie politique, pensait que son intérêt et même sa nécessité était d'être en retrait, était d'intervenir le moins possible, de la façon la plus conventionnelle possible.
Oui, c'est ça, pour en dire le moins possible un peu à chaque fois.
Pour dire les choses de la façon la plus minimaliste possible. Ça s'expliquait parce qu'il n'était pas à l'aise avec la télévision, clairement. Il était d'ailleurs bien meilleur à la radio, mais il n'était pas à l'aise du tout. Ça s'explique parce qu'il se méfiait profondément des journalistes. C'était d'ailleurs tout à fait réciproque, parce qu'il avait la réputation de mentir énormément. Enfin, d'ailleurs, réputation légitime. Et puis, c'était chez lui un instrument de pouvoir classique. Et puis, parce que lui aussi déjà, parce que c'est ce qui se passe malheureusement depuis maintenant pratiquement 40 ans, lui aussi déjà était sur la défensive en politique. On ne communique pas de la même façon sur la défensive ou à l'offensive.
C'est sa fille qui s'occupait de sa communication. En Claude Chirac, il n'a pas changé de fille, elle est restée à côté de lui.
Ah, puis ça, elle, non seulement elle est intelligente, mais en plus, elle fait preuve vis-à-vis de son père d'une dévotion exceptionnelle. Et quand elle était à l'Élysée, son obsession, c'était non pas de le valoriser, mais de le protéger.
Mais alors c'était la doctrine Chirac-Claude ou Chirac-Jacques, est-ce qu'elle pesait sur les décisions de son père, Alain Duhamel ?
Alors, sur les décisions politiques, je crois que c'est Jacques Chirac, comme tous les présidents, qui prend ses décisions, bonnes ou mauvaises. En revanche, sur l'image politique, elle avait un rôle qui était un rôle important, et je répète, qui était un rôle très protecteur et... C'est ce qui est curieux, étant donné que Jacques Chirac était un combattant de tempérament. C'était un combattant, mais qui, quand il a été président, en fait, était toujours sur la défensive politique. Au fond, les deux derniers à avoir été vraiment offensifs avant la période toute récente, c'était Giscard au début de son septennat, et c'était François Mitterrand entre 81 et 83. Bon, et puis il s'est revenu avec Nicolas Sarkozy, qui lui a révolutionné la communication politique française.
Pourquoi ?
Mais parce qu'il l'a américanisé, et je dirais professionnalisé, parce qu'il était remarquablement efficace. Ensuite, la politique était ce qu'elle était, les crises, trois crises économiques, etc. Mais à la télévision, par exemple, aucun président ne faisait preuve de tellement de présence, de dynamisme, etc. C'était incroyable, c'était presque pathologique tellement il s'identifiait à sa communication. Et alors, le communicateur de l'Élysée, c'était lui. Et c'était vraiment lui. Bon, ça avait un côté hystérique, forcément.
Frédéric Saïs.
On entend souvent les anciens conseillers à l'Élysée dire que l'Élysée isole terriblement, et on a l'impression qu'il y a une sorte de chorégraphie qui est commune à tous les chefs d'État nouvellement élus, c'est qu'ils sont un peu sur un frêle esquif, ils font venir les équipes qui viennent de les porter au pouvoir, ils font confiance à un nombre limité de gens, et finalement, au cours du quinquennat, les équipes s'élargissent, s'étoffent, et c'est d'ailleurs aussi le cas pour les gouvernements qui commencent toujours resserrés et qui finissent toujours élargis. Si on fait un peu de sociologie des organisations, quelle est la bonne formule, Alain Duhamel, Gaspard Ganzer? Est-ce qu'il faut une équipe resserrée avec des gens de confiance, ou est-ce qu'il faut quand même se dire on est à la tête de la sixième puissance du monde, il faut quand même beaucoup de gens, beaucoup de compétences autour de nous, y compris en quantité, peut-être Gaspard Ganzer?
Je pense qu'on gagne avec un commando extrêmement resserré, surtout dans les campagnes politiques actuelles, mais que pour gagner, il faut une armée, ou en tout cas des gens peut-être plus chevronnés, comme le disait Alain Duhamel tout à l'heure. Je crois que certains présidents ont réussi cette synthèse. Nicolas Sarkozy, à l'Élysée, il avait des gens qu'il avait aidés à gagner, Franck Louvrier, Claude Guéant, Emmanuel Mignon, mais il avait aussi fait venir des gens qui venaient de l'extérieur. Henri Guénot l'avait rejoint très tard dans la campagne, Raymond Soubi était arrivé, Jean-David Lévy du Conseil diplomatique était arrivé, il y avait une très bonne synthèse et c'était une excellente équipe élyséenne. François Hollande, il avait fait aussi une synthèse entre des gens qu'il connaissait depuis 30 ans et les gens qu'il avait portés au pouvoir. Emmanuel Macron, il a fait un choix plus radical, lui il a vraiment gouverné avec vraiment les gens qu'il avait portés au pouvoir. Il faut le comprendre, ils ont réussi un exploit politique absolument exceptionnel. Je crois qu'il faut un peu les deux. Il faut à la fois des gens expérimentés, des gens qui vous ont porté au pouvoir, parce que sinon il arrive ce qui est arrivé tant à Nicolas Sarkozy qu'à François Hollande qu'à Emmanuel Macron. Au bout de deux ans, on est obligé de changer tout le monde.
Alain Duhamel, les difficultés sont aussi liées à ça pour Emmanuel Macron, c'est d'avoir fait trop confiance à cette bande qu'on appelle les Mormons, c'est-à-dire ces jeunes trentenaires qui l'ont suivi depuis Bercy.
Moi, ma thèse est qu'il n'a pas fait trop confiance aux Mormons, mais qu'il s'est fait trop confiance à lui-même. C'est-à-dire qu'il a trop cru que, comme il venait effectivement d'accomplir un exploit invraisemblable pour arriver à l'Élysée, il était tellement différent des autres qu'il pouvait réinventer la présidence. Et réinventer la présidence, c'est assez téméraire.
Mais qui sont les présidents qui ont douté, Alain Duhamel, parce que on
qui ont douté?
Oui,
ah oui.
À
tous.
Tous,
ouais. Tous ont douté. Le général de Gaulle a douté.
À la fin.
Mais à la fin, vous en avez de bonnes. Pendant la fin de la guerre d'Algérie, il y a des moments où il a douté.
Bon, bah si oui, vous dites, je vous crois.
Oui, en plus, il doutait tout simplement de sa survie, en 61-62, ce qui est une forme de doute quand même assez prégnant.
Oui, mais sur Valéry Giscard d'Estaing. C'est-à-dire que sur la guerre d'Algérie, il a pris probablement une décision inverse de celle qu'il avait prévue de prendre.
Non, mais il doutait de sa capacité à convaincre qui il voulait convaincre. Ses rapports avec l'armée pendant la fin de la guerre d'Algérie, c'était horriblement compliqué. Bon, Valéry Giscard d'Estaing ne doutait pas du tout, sauf quand il a commencé à douter trop tard. Trop tard, 6 mois avant sa réélection. François Mitterrand ne doutait pas. Il a eu cette phrase que je trouve tout à fait juste, incroyablement cynique et extrêmement intelligente. Quand on lui demandait quelle est la principale qualité pour un président de la République, il a répondu l'indifférence.
Et à la fois, il était extrêmement agacé par les commentaires, les critiques. Est-ce que ça n'était pas aussi une phrase qu'il avait envie de se répéter à lui-même parce que précisément son tempérament le portait à l'inverse?
C'était, je dirais, aussi un résidu de 4e République. C'est-à-dire qu'il avait été une cible terrible pendant la 4e République, vraiment une cible privilégiée. Et il avait été une cible privilégiée au début de la 5e
République. Il faut rappeler aux jeunes auditeurs qu'il a été accompagné par différents scandales.
Oui, puis qu'il a été 11 fois ministre sous la 4e République quand même. Et puis qu'au début de la 5e République, il a été une cible obsessionnelle des gaullistes, avec une violence et des manœuvres machiavéliques absolument hallucinantes, auxquelles il se prêtait, le cas échéant. Bon, donc, il a eu aussi ses doutes. Jacques Chirac, je pense, a douté tout le temps. Mais il avait une énergie intense. Je pense que les successeurs... Je ne suis pas sûr que Nicolas Sarkozy ait beaucoup douté. François Hollande, je suis sûr qu'il a douté à certains moments, évidemment. Et j'espère vivement qu'Emmanuel Macron doute.
Gaspard Ganzer, ce qui a modifié la communication et même l'exercice du pouvoir, c'est tout de même les réseaux sociaux et l'apparition donc d'un terme comme le buzz, par exemple, qui fait que bien souvent, ce qui ressort de la politique est précisément ce que l'on n'avait pas du tout veillé à surveiller, ce qui rend l'exercice du pouvoir et l'exercice des conseillers qui entourent le président singulièrement compliqué.
Oui, c'est certain. Les comparaisons qu'on fait souvent avec la période mitterrandienne ou chiracienne, en fait, sont intéressantes, mais en réalité, on ne parle pas du même monde. On parle un peu, c'est comme tu parlais du monde de la littérature avant l'apparition de l'imprimerie. C'est-à-dire que pas du tout la même chose. Là, avec les réseaux sociaux, les chaînes d'information continue, la mondialisation de l'information, tout va très, 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 très vite. Et donc, il faut s'adapter en permanence. Et ce qu'on apprend en réalité, c'est évidemment le doute. François Hollande doutait beaucoup parce qu'il se questionnait beaucoup face à toutes les décisions, mais on apprend surtout la modestie. Parce qu'on sait que la maîtrise n'existe pas en réalité. On peut chercher à prévoir, mais on doit en permanence s'adapter et corriger. C'est pour ça que je pense que l'équipe d'Emmanuel Macron...
Mais quand vous préparez un discours ou quelque chose d'important et que finalement ce que l'on retient c'est l'absence de parapluie, qu'est-ce que ça donne quand on travaille auprès d'un président?
Déjà, il faut avoir un peu de sens de l'humour, hein. C'est une grande qualité et de sens du recul. Parce qu'en réalité,
sauf qu'en fait, c'est pas drôle parce qu'on vous le reproche vraiment politiquement.
Oui, mais parce qu'après, il faut prendre vraiment du recul et faire preuve d'un peu de sagesse. Les images, elles restent, elles peuvent faire du mal. Mais ce qui compte quand même quand on fait de la politique, c'est ce que l'on fait pour les gens. C'est ce que l'on change vraiment dans la vie des gens. Et ça, ça reste dans leur chair, ça reste dans leur vie. François Hollande, il a permis aux couples du même sexe de se marier. Il a permis l'accord de Paris sur le climat. Il a permis à la France de faire face aux attentats terroristes. Ça, ça reste. Dans le livre d'histoire, il n'y aura pas l'île de Sein ni la une de Closer. En revanche, il y aura la réaction de la France à la suite des attentats de novembre 2015.
Alain Duhamel, un mot de conclusion à ce sujet. Quand on voit que la politique est envahie par ce qu'on peut appeler des détails, est-ce que...
Alors d'abord, d'un mot en ce qui concerne François Hollande, il a été très supérieur à l'image qu'il a laissée. Je suis tout à fait d'accord, je pense que dans 20 ans, le rôle qu'il a exercé sera revalorisé. Ça m'amène à l'autre point, le fait que l'information soit aujourd'hui instantanée, mondialisée, l'existence des réseaux sociaux, ça rend l'exercice du pouvoir, et en particulier en France, où l'exercice du pouvoir est tellement présidentialisé, ça le rend, je ne dirais pas impossible, mais encore beaucoup plus difficile qu'il l'était. Et ça, je pense que c'est un facteur nouveau qu'il faut intégrer, parce que ça ne disparaîtra jamais.
Et est-ce que quelqu'un d'autre, une autre organisation aurait permis de faire face à cela, Alain Duhamel?
Vous voulez dire un régime parlementaire?
Par exemple?
Non, parce que quand je revois ce qui se passe à Rome, en ce moment à Londres, ou ce qui se passe à Berlin, je suis assez content qu'on ait un régime présidentiel, mais je constate que d'être président, c'est de plus en plus difficile, parce qu'on a de moins en moins de prise sur l'événement, et qu'on est en réalité en permanence totalement caricaturé, et si j'ose dire, frivolisé.
Alain Duhamel, journal d'un observateur, c'est paru aux éditions de l'Observatoire. Merci également à Gaspard Ganzer.